Cette émission vous est présentée par Avatar, centre d'artistes spécialisé dans la recherche, la création et la diffusion d'art audio et électronique.
Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de La Croche-Oreille. C'est Gaétan Gosselin et Jean-Pierre Gay avec vous, comme à chaque semaine. Et Gaétan, on a comme amorcé notre sprint vers la fin de notre série d'émissions ensemble.
Le sprint de fin de saison, tu appelles ça comme ça?
Oui, j'appelle ça le sprint de fin de saison, Même si à chaque semaine, c'est plutôt relax. Là, on n'a pas l'impression d'être en pleine course. Mais il nous reste quoi? Trois émissions après celle-ci. Et donc, avec nous ce soir, Pascal Leblanc-Lavigne. Bonsoir, Pascal.
Bonsoir.
Pascal, qui a obtenu le prix d'Avatar l'année passée, comme à chaque année, lors de la remise des diplômes. Je ne sais pas trop comment ça se passe. À la fin de l'année, à la fin de votre bac, différents centres d'artistes remettent des prix dans chacun leur discipline. Et Avatar, dans le domaine de l'art sonore, a reconnu ton travail. Alors, bienvenue. Puis d'autant plus qu'Avatar, c'est le centre d'artistes qui est aussi le parrain de cette émission. Donc, t'es vraiment en terrain familier ce soir. Tu te sens, t'es comme chez vous.
Ben presque. Après un mois passé à Avatar, je me sens comme chez moi ici.
Et d'ailleurs, effectivement, t'arrives justement d'une résidence chez Avatar. T'as travaillé beaucoup. Sur quoi essentiellement a porté cette résidence-là?
Oui, dans le fond, je voulais réaliser une série de 8 sculptures cinétiques et sonores qui allaient tourner autour, je voudrais pas dire du thème, mais je vais le dire quand même, du thème de la violence qui, je crois, prend racine dans son caractère imprévisible. Donc ça, je voulais faire une série de sculptures qui allaient peut-être, potentiellement, se détruire elles-mêmes.
OK. Donc, quand tu parles de violence, c'est pas la violence prise dans son sens humain, là, mais c'est vraiment, je dirais, la dégénérescence ou la détérioration de sculptures que tu vas produire.
Oui, mais la violence, évidemment, quand on l'entend, c'est un terme qu'on associe aux relations humaines, mm-hmm. Au caractère destructeur, des fois, qui peut subvenir dans les mauvaises relations. Mais pour moi, la violence, oui, ça vient de là. Mais ça vient aussi d'un paradoxe entre création et destruction qu'on peut sentir dans les forces physiques de la nature, comme la force de la pluie, de l'océan, du vent.
Du feu. Comme on le voit bien ces temps-ci.
Oui, malheureusement, du feu. Puis justement, c'est un potentiel qui est observable dans les relations humaines. Comme Paul Virilio en parle souvent, inventer le train, c'est inventer le déraillement. Inventer le Titanic, c'est inventer le naufrage du Titanic.
Mm-hmm. Donc, il y a toujours, comme on dit, l'envers de la médaille. Dans une création, il y a toujours le côté positif puis le côté négatif.
Oui, puis la destruction peut engendrer aussi une création.
Donc, tu as travaillé sur cette idée-là.
Oui.
Autour de ça, chez Avatar.
Oui, ben ça m'a toujours intéressée dès que j'étais au cégep, là, puis depuis le début de mon baccalauréat, puis j'ai profité vraiment de mon mois chez Avatar pour faire une résidence de production intense, là, c'est pas des projets que j'ai vraiment terminés, là. C'est plus une exploration de prototypes, là, de dispositifs qui allaient m'amener à explorer ce point-là, là, vraiment de manière plus approfondie.
Mm-hmm. Parce que quand on parle de dispositifs, ce sont des appareils ou des mécanismes ou des dispositifs. Parce que j'aime beaucoup ce mot-là, dispositif aussi, qui dans le fond, génèrent du son.
Ouais, puis,
C'est parce qu'il y a un lien entre ces machines-là, ces structures, ces dispositifs-là et la création sonore.
Oui. Ils génèrent des sons que je n'essaie pas de prévoir, puis des événements aussi que je... Ben bon, je m'en viens assez pas pire pour deviner qu'est-ce qu'ils vont faire, là, mais des événements que je tente pas à prévoir non plus.
Donc, il y a une forme de, je dirais, de liberté là, dans ces machines-là. Elles agissent un peu malgré toi, là. Une fois qu'elles sont créées.
Ouais, bon, j'aime mieux pas dire malgré moi, mais c'est ça. Moi, je les mets en place, puis après, ben, je les salue.
Oui, Gaétan. Est-ce qu'on pourra en entendre une? Est-ce qu'il est trop tôt pour en entendre?
Ben, on va enchaîner trois sonorités d'installation, puis Pascal pourra, nous évoquer un peu de quoi il s'agit, parce qu'il s'agit de machines qui sont actionnées par des moteurs. Il y a une belle construction mécanique autour de ces sonorités. Alors, on y va.
Alors, qu'est-ce qu'on vient d'entendre?
Oui, donc on vient d'entendre deux projets. Le premier, qui était les deux premiers fichiers, qui comportait les deux premiers fichiers sonores, c'est un projet qui s'est avéré être une vidéo, finalement, qui n'était pas vraiment une installation. Je m'étais enfermée dans une grande pièce blanche, puis pendant près d'une dizaine d'heures, dans le fond, j'utilisais le même dispositif qui était un moteur avec une tige de 6 pieds, à peu près, au bout. Au bout de laquelle je mettais du papier, des cordes, tous les matériaux que je pouvais réutiliser ou trouver sur mon chemin. Puis je regardais quelle réaction ça allait engendrer. Donc j'ai mis une caméra dans le coin de la pièce. Puis pendant 10 heures, ça filmait des phénomènes physiques inattendus que je m'attendais pas. Puis après coup, j'ai fait une autre vidéo avec ces phénomènes-là qui étaient très précaires. Donc c'est pour ça que la vidéo, ça a été un bon support pour présenter ces œuvres-là.
Donc ça, c'était dans les studios chez Avatar que tu as créé ça?
Ben non, c'était à l'École des arts visuels.
Ah, c'était à l'École des arts visuels, OK, ouais. Parce que là, je cherchais la grande pièce.
Pièce blanche, c'est la salle de critique où qu'on fait nos travaux.
OK, donc ça, ces travaux-là, ça te permettait de, pendant 10 heures, d'expérimenter. Est-ce que c'était la première fois que tu t'installais dans un local comme ça pour expérimenter ou c'était...
C'est pas la première fois, mais c'est la fois que j'ai été la plus satisfaite, en tout cas. Okay. Puis que j'ai gardé vraiment une trace. Parce que, tu sais, des fois, j'essayais des affaires dans mon atelier, puis bon, malheureusement, il n'y avait pas de trace de ça. Puis là, de vouloir faire une œuvre audio, ben ça m'a permis déjà de... Bon, d'un point de vue visuel, d'épurer qu'est-ce qui était pas nécessaire, là, des fois, dans la pièce, là, à défaut de construire une installation, puis de prendre le temps puis l'argent nécessaire à créer un espace qui allait être intéressant. Là. La vidéo me permettait de faire une surface qui était esthétique, là, intéressante pour présenter mes petits dispositifs qui, de manière individuelle, je crois, ne pouvaient pas faire une œuvre en soi, mais dans la série puis la répétition, devenait intéressant. C'était toujours le même mouvement, un mouvement circulaire, fait que toujours le même dispositif, là, un moteur au bout duquel il y a une longue tige, puis pourtant, j'ai fait une douzaine de petits objets avec ça qui ont engendré des comportements inattendus. Mais fait que je peux... Oui.
Pardon, Pascal, je t'interromps. Mais qu'est-ce qui te fascine le plus dans ce travail-là? Est-ce que c'est le travail de la mécanique de l'objet ou sa résultante sonore, je dirais? Parce que quand on regarde les sculptures, on appelle ça, on les appelait sculptures cinétiques, à un moment donné, on se demande si on n'est pas plutôt séduit par les composantes de la rotation et que la sonorité, on se demande si c'est quelque chose qui est le fruit du hasard, finalement, compte tenu du fait qu'il y a plein d'éléments qui peuvent intervenir dans la captation de ce qu'on fait entendre.
Ben, je serais tentée à dire que c'est le fruit du hasard, là, que le son il est là en une conséquence de l'installation, mais tu sais, quand même, ça fait peut-être 5 ans que je fais à peu près le même genre de travail, donc j'ai quand même développé. je m'attends un peu à qu'est-ce que je vais faire, mais moi, qu'est-ce qui m'intéresse le plus, je veux pas diminuer le côté mécanique de mes créations, le côté sonore, là, mais c'est vraiment l'imprévisibilité, c'est de me surprendre moi-même. Si je me surprends pas en faisant mes projets, ben je les aime pas. Quand ils donnent exactement qu'est-ce que je voulais que ça donne, c'est pas des bons projets.
Donc, quand tu multiplies plusieurs fois la répétition de quelque chose, tu sais qu'il va y avoir un résultat que tu connais, mais ce que tu essaies de créer, dans le fond, c'est cette espèce d'erreur de la machine ou qu'il arrive quelque chose qui est improbable ou qui est imprévu. C'est ça que tu essaies de créer?
Oui, c'est ça. Ouais.
D'en venir à avoir un résultat qui n'est pas celui que tu attends.
Ouais, c'est ça. Ben, c'est de m'étonner moi-même, là, finalement. Là,
c'est, donc, c'est comme c'est une création qui devient une création autonome, dans le fond, qui dépend pas de toi.
Non, c'est ça. Mes projets sont pas... je les sens pas vraiment personnels. Puis même, je dirais que c'est même pas mes idées, des fois. Là, c'est plate à dire, mais tu sais, ben, je le dis souvent, moi, j'ai pas vraiment d'idées. Là, je fais des assemblages, puis... j'en ai des idées, là. Mais je fais des assemblages, puis après, ils vont plus loin que mes idées auraient pu aller, j'ai l'impression. Là. Puis il y a un de mes professeurs à l'université qui a dit récemment, j'ai vraiment trouvé ce beau, que l'art... Je ne l'aime pas parce que j'ai peur de scraper sa citation, là, mais que l'art prenait forme dans l'écart entre l'idée puis le résultat. Mm-hmm. Puis, en tout cas, moi, je m'identifie quand même à cette phrase.
Dans cette espèce d'espace entre les deux. Là.
Exactement.
Ouais. Donc, où il peut y avoir de l'imprévu, où il peut y avoir des conditions externes qui interviennent.
Mm-hmm. Ouais.
Mais il reste que je reviens à tes postulats de départ, à savoir le travail sur la violence.
Oui.
Il est clair que c'est extrêmement... En tout cas, c'est intéressant de regarder les œuvres à la lumière de ce concept-là dans l'absolu, ne serait-ce que par les mots, parce que bon, il y a une œuvre qui s'appelle Strap et moteur, Strap et ainsi de suite. Et puis, bon, il y a ce claquement qui est assez envahissant sur le plan sonore. Puis, il y a aussi la répétition.
Oui.
Et ça, là-dedans, il y a quelque chose d'assez...
violent.
D'assez violent, puis d'assez intéressant, parce qu'on se demande s'il y a des œuvres qui sont... Il y a des œuvres, on se demande si elles vont se terminer, si elles sont finies. Je pense à cette tige droite là, qui mesure, comme tu dis, peut-être 6 pieds, qui avale un papier. Qu'à l'heure d'avaler un papier, on se dit, à un moment donné, tout va s'enrayer et la sonorité va s'évanouir. Alors que l'installation Strap dans une mezzanine ou quelque chose comme ça, tu me corriges, Pascal, pour ce qui est du titre, là, on a un effet cyclique de courroie qui frappe un objet. C'est peut-être un corps, mort, c'est peut-être un corps vivant, mais il y a cette évocation peut-être de la colère, de la correction, c'est ça, c'est le mot que je cherchais. Il y a une évocation de la correction dans cette pièce. Ça serait peut-être, d'ailleurs, je te le suggère, ça pourrait être un titre intéressant.
La correction.
La correction, oui. La correction pris dans le sens presque de la fessée. Là,
c'est ça. Ouais, ben moi, pour être honnête, j'y pense pas. ça guide pas mes créations, mais pas du tout. Là, puis c'est pas cette violence-là non plus. Mais en même temps, je suis pas aveugle. Là, je le vois une fois que c'est fait. Puis vous êtes pas le premier à me donner ce commentaire-là. Là, je l'entends souvent. Mais c'est que c'est dans la répétition, quand même, je pense à cause de la précarité de l'assemblage, que naît la violence dans la répétition. C'est qu'on... À un moment donné, on s'accoutume au fouet, puis c'est ça, par la répétition du son, du geste. Mm-hmm. Mais vu que c'est tellement précaire, on se dit, tu sais, il y a une attente de l'inattendu. Est-ce que ça va continuer ou à un moment donné, il va se passer quelque chose? Il y a une attente de l'événement. Puis, tu sais, quotidiennement, on vit les journées une après l'autre comme ça, mais on le sait qu'il y a une imprévisibilité qui s'installe jour après jour. C'est comme je suis allée... en tout cas, je suis allée au Old Basel à Miami, puis j'en ai profité pour me baigner un peu. Puis quand on était dans l'océan, tu sais, la force des vagues nous repoussait à la fois contre la plage, mais nous ramenait de plus en plus loin. Puis même si c'était tout le temps pareil, à chaque fois, j'étais comme un peu étonnée qu'elle revienne me pousser, puis qu'elle me ramène.
Et qu'elle te ramène encore plus loin.
Ouais, c'est ça, c'est ça. Puis je me demandais aussi tout le temps, tu sais, des fois, il y a une de mes amies avec qui quitte avec moi, tu sais, elle a vu une raie. Amené par les vagues, des poissons aussi. Fait qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'elle peut nous emmener, la vague. Puis pourtant, c'est toujours la même chose. C'est toujours une vague. Je peux être ce soir.
Gaëtan, penses-tu qu'on pourrait l'écouter, la fameuse courroie qui frappe sur le mur?
Oui, je vais essayer de vous redémarrer cet extrait.
Parce que dans le fond, ça illustrerait bien pour les auditeurs ce dont on vient de parler, cette espèce de courroie qui frappe quasiment éternellement un mur.
Oui, elle s'attaque à l'espace, en fait. Elle corrige l'espace.
Ça s'appelle la correction.
Oui, maintenant, ça s'appelle la correction.
On parle de l'œuvre qui s'appelle la correction.
C'est
ça. Il y a quand même un autre élément, il y a cette espèce de courroie qui tourne, mais il y a un petit clic-clic qui intervient par la suite. C'est comme s'il y avait d'autres choses qui intervenaient que la courroie et le mur.
Oui, ça peut être le support, dans le fond, de toute cette courroie-là, qui est une amanchure, puis je dis bien amanchure, de bois récupéré, de bois de grange que j'ai trouvé un peu partout, puis que j'ai utilisé dans d'autres projets aussi. Tu sais, je l'ai dit plus tôt, ça semblait de manière précaire, vraiment. Là, les vis créent des vibrations aussi, des sonorités qui sont intéressantes, puis qui accentuent l'aspect violent, voire dangereux là, de mes installations.
Oui, Gaëtan.
Ben, je démarrerai.
Vas-y.
Un projet d'installation dont Pascal va nous parler.
OK. Qu'est-ce qu'on vient d'entendre?
Oui, donc on vient d'entendre 6 moteurs, 6 grosses tiges d'acier, 6 verres et plusieurs rondelles. En mon anglais, c'est des washers.
OK, c'est des washers qui sont dans un verre. En fait, ce sont 6 verres qui sont au bout d'une grande tige.
Ouais,
dans ces verres-là, il y a un petit washer qui est... Et toutes ces grandes tiges-là sont agitées par un petit moteur en dessous qui les fait bouger et qui fait finalement, au bout du compte, sonner le washer dans le verre.
C'est ça.
Les 6 washers dans les 6 verres.
Ouais, c'est ça. Vous avez sûrement déjà fait l'expérience. On peut le faire avec un verre de vin. Là, quand on fait un mouvement circulaire avec notre bras, un peu désaxé, ben les particules, là, en tout cas dans le verre, vient vraiment se frotter contre la paroi à place de comme d'aller dans tous les sens. Mm-hmm. Là, il crée une espèce d'inertie au centre du verre.
Oui.
Puis bon, je voulais reproduire ça pour faire des sonorités différentes selon le nombre de washers que j'avais, puis la hauteur du verre aussi, puis la vitesse des moteurs. Là, j'avoue que j'étais allée plus avec une idée en tête précise, puis je m'intéressais au son que ça faisait particulièrement. Ouais.
Et donc, cette idée-là, c'était vraiment d'en venir à avoir le petit son le qu'on entend, le petit son de clochette, peut-être,
ouais.
Qui n'est pas une clochette, dans le fond, là. Donc, tu avais une intention, puis ça s'est réalisé.
Ben oui.
Contrairement aux autres qui sont un peu... qui produisent des choses inattendues.
Oui, oui, c'est ça. Puis le caractère plus violent ou dangereux, là, c'est que c'est vraiment des verres en verre. Tu sais, donc,
ben oui.
Potentiellement cassable. Puis c'est quoi washer en français? Rondelle, disque?
Un coussin de caoutchouc.
Ouais, non, c'est en métal.
Ah, c'est en métal?
Ouais, c'est en métal. En tout cas, excusez des washers. Dans les verres, tu sais, qui sont en métal, qui venaient se frotter contre les parois, ça avait vraiment le potentiel d'éclater, à un certain moment. Puis je me suis faite un peu, je dirais, avoir là, par vraiment les éléments que j'avais mis dans l'espace. Là. Donc, cette œuvre-là, je l'ai vraiment conscrit, tu sais, pour pas justement qu'il y ait d'événements imprévisibles qui arrivent, justement parce que, selon moi, elle était comme trop dangereuse, mais finalement, si c'est à refaire, je pense que les tiges seraient un peu plus minces.
pour donner plus de mouvement,
ouais,
peut-être.
Plus de mouvement, plus d'inertie, puis plus de prise.
Qu'elles en viennent peut-être à s'entrecroiser aussi.
Ça serait pas drôle.
Ça serait pas drôle, c'est une façon de parler. Mais dans le fond, effectivement, si elles pouvaient s'entrecroiser, ben là, ça serait plus le chaos. Là.
Ouais. Mais j'aime ça qu'il y ait du chaos, mais qu'en même temps qu'il y a un ordre établi dans le chaos, tu sais. Puis des fois, un contrôle du chaos, puis un moment de douceur qui peut s'installer, des fois, là, avec peut-être la petite mélodie des rondelles là, dans les verres. Ouais.
Et là, tu es à la Chambre blanche maintenant, tu es passé non?
Oui, je suis à la Chambre blanche depuis septembre.
Donc, ton projet, c'était à la fois à la Chambre blanche et chez Avatar?
Oui, à la Chambre blanche, c'est une résidence, je suis vraiment contente d'ailleurs, là, c'est une résidence de création de 2 ans qui est pour toute la durée de ma maîtrise. Donc, dès septembre, j'ai un malin plaisir à découvrir les outils que la Chambre blanche offre, là, surtout la découpeuse laser puis l'imprimante 3D. Donc, pour ma résidence à Avatar, j'avais préalablement utiliser les outils de la Chambre blanche pour faire mes pièces mécaniques.
Mm-hmm. Mais explique-moi, une résidence qui s'étale sur 2 ans, ça veut dire que t'as quoi? T'as un espace qui t'est alloué? Comment ça fonctionne?
J'ai pas vraiment d'espace alloué, là. Ben, tu sais, j'ai un tiroir, là. J'ai un petit lieu pour mettre mes outils, là. Mais, tu sais, moi, j'utilise mon atelier qui est au roulement à billes, là, qui est les ateliers de la maîtrise. Mm-hmm. Puis à la Chambre blanche, je vais là pour travailler, là, sur vraiment des aspects plus techniques de mes projets, là.
Okay. Donc, tu bénéficies à la fois de l'espace puis de l'aide technique aussi
oui.
De François, j'imagine?
Cédric,
OK. Ouais. Est-ce qu'on peut écouter une autre œuvre? Gatin, est-ce qu'on en a une autre en banque?
Écoute, Jean-Pierre, pour être franc, là, j'ai un petit problème avec l'ordinateur de Pascal parce que j'ai pas son mot de passe. Alors, ce que je vous propose, c'est que pendant qu'elle va venir voir son ordi, on va entendre des sonorités de ces installs. On voulait pas les faire jouer. Ça va nous donner quelques secondes pour qu'elle vienne me voir pour voir si on est capable de boucler la boucle. C'est comme
parfait.
Ça parfois.
C'est bon. Alors, non, écoute, ça fait partie des aléas.
Oui, ouais, tout à fait.
Qu'est-ce que c'était la sonorité qui était toute fine, juste avant celle, la dernière qu'on a entendue?
Ouais, ça, c'était une œuvre que j'avais présentée à l'expo des finissants de l'École des arts visuels l'an mm-hmm. dernier, en mai. Dans le fond, c'est 2 feuilles de papier qui sont installées à l'horizontale au bout de des longues tiges très minces, là, plus minces mm-hmm. qu'un 8 de pouces en métal. Ce sont au bout, puis ils se rejoignent, ils se superposent, puis ils font un mouvement très, 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 très lent, rotatif, là, puis ils ont vraiment l'air de s'embrasser, finalement. Mm-hmm. Là, ils se frottent l'une contre l'autre.
C'est ça, le côté du frottement qu'on entend?
Oui, je pense qu'on entendait aussi le métal tourner. Mm-hmm. Forcer un peu pour que la feuille se replie sur l'autre feuille. Là. Tu sais, le petit bruit du métal, là, du mécanisme. Là, ouais.
Donc, c'est toujours intéressant, bien sûr, d'entendre ces sons-là, mais c'est aussi intéressant de voir ce qui se passe aussi.
Oui.
Donc, l'aspect visuel est aussi important dans ton travail. Là. Même si un anime l'autre, il reste que quand on entend essentiellement le bruit, on ne peut pas imaginer que ce sont 2 feuilles qui s'enlacent pour utiliser une image. Là.
Non, moi, qu'est-ce qui m'anime? Là, mon médium de prédilection, c'est vraiment c'est le mouvement. Puis mm-hmm. Le son vient souligner l'intensité ou la douceur, la violence, dépendamment là, du mouvement. Ouais. Mm.
Donc, c'est vraiment le mouvement. Le son, c'est comme un je dirais pas un accessoire, mais c'est le résultat de ton travail.
Ouais, c'est un résultat.
Mais toi, ce qui t'intéresse, c'est vraiment ce qui bouge dans l'espace et le son qui fait au bout du compte.
Ouais, c'est ça, le mouvement. J'ai lu un livre récemment que j'avais l'impression qu'il était fait pour moi. Là, quand je l'ai lu, ça a comme été un peu, pas une révélation parce que justement, ça faisait vraiment écho à mon travail. Un livre qui était écrit par l'artiste Joël Morosoli. Morosoli ou Morosoli, je suis pas sûre. En tout cas, qui est une artiste de Québec, là, qui fait de l'art cinétique et sonore. Mm-hmm. Puis elle avait écrit, elle avait intégré à son texte plusieurs sources scientifiques là, vraiment qui sont hors du domaine des arts. Puis elle disait que l'œil, tu sais, c'est pas un outil pour détecter la lumière nécessairement et les couleurs, mais c'est un outil pour reconnaître qu'est-ce qui est en mouvement. Puis ça, ça sollicite l'instinct de survie. Donc ça, pour moi, ça plonge le visiteur ou moi-même, là, la personne qui vient voir l'œuvre, dans un état de présence constante. T'sais. Ça éveille l'instinct, puis la conscience d'être aussi. Ouais. Le mouvement. Moi, ça me permet de créer un événement puis un espace ouais, immersif. Là. On l'a peut-être plus reconnu, celui-là.
Il y a un moteur, c'est
certain. Oui, il y a un moteur. Puis c'est le bruit qu'on a. On a entendu le bruit d'un shop-vac, donc d'un aspirateur.
Un aspirateur,
ouais,
ah,
oui. D'un aspirateur qui était suspendu au bout de des câbles. Puis la mise en marche de l'aspirateur, la puissance d'aspiration faisait que le dispositif que j'ai fait tournait sur lui-même. Puis je le répète, il est suspendu, donc il est en hauteur. Puis un tuyau qui vient aspirer des particules de vinyle que j'ai emprunté à un artiste à Avatar qui avait laissé là. C'est Christophe Migon qui avait laissé.
Christophe Migon qui est un champion en art sonore.
Ben,
c'est un pionnier canadien de l'art sonore.
En plus, c'est ça vient rehausser la qualité de mon projet. Fait que c'est ça, Christophe Migon il avait laissé des particules de vinyle là, que c'est vraiment c'est de la matière sonore de son projet Record Release. Puis moi, c'est des particules qui étaient vraiment la forme puis leur poids était parfaite pour mon projet. Puis en plus, ça, j'aimais ça qu'un aspirateur vienne aspirer de la matière sonore pour ensuite la recrocher. Puis on entendait le son des particules retomber sur elle-même.
C'est un peu comme si tu t'inspirais de Christophe Migon puis que ça venait t'alimenter.
Il m'inspire. Mais je suis tombée sur les particules vraiment
très par hasard.
Ouais, c'est ça, par hasard, ouais. Puis ça m'a assez séduit là, que ça soit les vestiges d'un projet artistique en plus sonore.
Est-ce qu'on a un autre son, Gaëtan? Oui. Là, on est dans les percussions.
Ouais. Donc là, j'avais utilisé un très grand haut-parleur. Le diamètre, c'était au moins 18 pouces là, de diamètre. Puis à l'intérieur, ben là, j'ai mis des basses fréquences là, pour que la membrane du haut-parleur fasse des grands allers-retours. Là. Okay. Ouais, c'est ça, qu'elle pousse beaucoup d'air. Puis le haut-parleur était suspendu par des cordes d'acier partant de très haut. Puis elle est vraiment tombée à une surface, tu sais, je dirais à un pouce du sol, là, vraiment, il frottait le sol. Puis il y avait aussi un mécanisme qui faisait un ballottement comme une pendule avec le haut-parleur. Je sais pas si c'est assez imagé, comment je l'explique, là. Mais en tout cas, il y avait un haut-parleur, finalement, qui venait se balloter à ras le sol. Puis quand il y avait les basses fréquences, là, ça venait...
aspirer, non?
Faire bouger, là, okay. En tout cas, de faire bouger des particules de bois que j'avais disposées un peu partout sur un plancher que j'avais fait moi-même aussi avec des contreplaqués d'un quart de pouce. Donc, vu que le plancher était très mince, puis la force, la percussion du haut-parleur sur le plancher, ça faisait que le plancher se transformait aussi en haut-parleur. C'est comme si les membranes du plancher répondaient au mouvement des membranes de l'haut-parleur.
Mais ben Pascal, oui. on arrive presque à la fin, il nous reste une minute. Écoute, je te poserai la question, où ça s'en va dans les prochaines années, ton travail?
Mon Dieu, ben, c'est que j'aimerais ça, évidemment, tu sais, prendre plus de place dans un espace, c'est de créer vraiment un environnement violent. C'est pas juste un objet violent. Là, en ce moment, je fais beaucoup des objets, mais j'aimerais ça créer vraiment ça, un espace immersif.
Une sorte d'installation.
Ouais, vraiment. Ben, tu sais, là, je fais des œuvres installatives, mais vraiment, tu sais, comme à l'expo définitive, j'ai fait une œuvre in situ. Puis ça, j'avoue que j'ai aimé ça. Puis je trouvais que les choses tombaient en place. Mm-hmm. Donc, vraiment, de travailler dans des lieux, des espaces là, que je pourrais investir. Ouais.
Ben, écoute, on te souhaite la meilleure des chances dans ce domaine-là, puis au plaisir de se recroiser. Et bonne chance à la Chambre Blanche.
Ben, merci beaucoup de m'avoir invité.
Ben, merci d'être passé par chez nous. Alors, Gaëtan, on se laisse avec une œuvre.
On va écouter un enchaînement de sonorités des installations de Pascal.
Parfait.
Et puis, on se rend à la pause.
OK. Ah,
c'est vrai que ça passe vite.
Cette émission vous est présentée par Avatar, centre d'artistes spécialisé dans la recherche, la création et la diffusion d'art audio et électronique.
Ça commence bien la deuxième demi-heure, Gaëtan. Ouais, c'est ton choix, c'est, ça.
Oui, parce que comme nos publicités sont disparues, Jean-Pierre, on a besoin d'un peu de marge de manœuvre.
Oui, mais c'est bon, ça fait une belle pub.
Pour le départ de,
ouais,
de nos invités, puis le temps de reprendre le beat, je dirais, de la deuxième demi.
Alors, donc, deuxième demi-heure de La Croche-Oreille, c'est toujours Gaëtan et Jean-Pierre Gué. Gaëtan Gosselin, Jean-Pierre Gué. Deuxième demi-heure, Gaëtan, où on vient de commencer là, une œuvre sonore d'ambiance. En fait, ce qu'on s'était dit, c'est qu'on ferait jouer des pièces qui ont été composées ou créées pour occuper des espaces. Donc, la première qu'on vient d'entendre?
Ben, celle-là, c'est une pièce du compositeur Aphex Twin, qui est Richard David James, un gars qui s'est fait remarquer dans le domaine de la musique électronique. C'est une sorte de gourou, je dirais. Et c'est une pièce tirée de l'album qui s'appelle Selected Ambient Work. C'est un album qui date déjà de quelques années tout de même. Et ce qu'on voulait faire ce soir, c'est prolonger, je dirais, les...
Une émission qu'on a déjà faite.
Prolonger un peu le travail que Pascal vient de nous présenter, c'est-à-dire un travail installatif qui procure, qui produit des sonorités. Alors, on a un peu... pris à gauche, à droite là, des productions qui sont issues d'installations. De mon côté, je pense entre autres au travail de Max Newhouse qui a réalisé des installations en milieu urbain, qui est un bonhomme qui s'est particulièrement préoccupé par ce qu'on appelle les walking sounds, les promenades sonores. Alors c'est un exemple. Un Français, Jean Tinguely, qui a fait des sculptures qui au départ visait à récupérer des matériaux, recombiner des mécaniques pour en faire des objets qui sont des objets sonores. Et enfin, une pièce qu'on va entendre de David Rockaby, qui est un ancêtre, l'ancêtre, je dirais, de la Kinect, de ces machines qui permettent de l'interaction, ces interfaces qui permettent l'interaction entre le son, l'image, les mouvements. Alors, Rockaby, dans les années 80, va inventer ce qu'il appelle son Very Nervous System, et ça va permettre de générer du son à partir du mouvement corporel. Alors ça, c'est assez intéressant. Et ton côté, Jean-Pierre?
Ben moi, de mon côté, je suis allé chercher, on va parler de Jean-Pierre
Gauthier,
de Béchard Hudon, des artistes qui ont proposé des choses à partir d'objets. Et je voulais commencer par une jeune artiste qui a fini sa maîtrise en arts sonores à Nice l'année passée, à la Villa Arson. C'est Florence Delphine Roux. À la Villa Arson, c'est une ancienne villa cossue dans laquelle il y avait des jardins. Cette villa-là est devenue l'école des arts visuels de Nice. Et Florence Delphine, donc, elle a fait sa maîtrise et elle a utilisé la serre, compte tenu qu'il y a une serre dans cette villa-là, et elle a utilisé la serre comme lieu de diffusion d'une œuvre sonore. Et elle l'a créée, et l'œuvre, elle est diffusée donc dans cette serre-là, et elle a utilisé la structure de la serre comme diffuseur du son. Donc, elle a placé ses speakers dans la structure, et la structure est devenue la résonance de son projet. Et évidemment, tout ça se déroule dans une serre, donc il y a une ambiance assez particulière. Et l'œuvre s'intitule justement « Serre », et c'était le projet de cette jeune artiste à la Villa Arson. Alors, c'était l'œuvre de Florence Delphine Roux qui s'intitule « Serre ». Et qui, Florence Delphine, qui vit maintenant au Québec, qui est revenue au Québec et qui est à Montréal et qui travaille ces temps-ci chez un partenaire en art sonore, Perte de signal, ouais. Elle est à Montréal.
Fait que dans le réseau des centres.
Elle est dans
centres
le réseau d'artistes. Des centres d'artistes de Montréal. Alors, on enchaîne avec un de tes choix, Gaëtan.
Oui, en fin de compte, un court extrait d'une œuvre sonore de Max Newhouse, qui est un artiste sonore américain qui a été assez important dans l'histoire des arts sonores au sens large. C'était d'abord un percussionniste qui a rapidement abandonné les percussions, je dirais, pour des expérimentations sonores influencées par John Cage et tout cet univers d'expérimentateurs des années 50 dans le domaine des arts au sens très large. Et Nuance va s'intéresser à la sonorité ambiante. Et un de ses projets les plus connus, c'est un projet qui s'appelle Listen, en anglais, qui veut simplement dire écouter. Et il a construit un parcours dans la ville de Manhattan, sur l'île de Manhattan. Le protocole était simple, c'était de détamper le mot listen sur la main des participants, et les gens avaient un parcours à suivre, et durant ce parcours-là, il y avait des indications où c'était écrit tout simplement sur un poteau, sur une affiche, listen. Et pour que les gens écoutent ce qui se passe dans l'environnement urbain new-yorkais de cette époque-là, et ça a fait époque, cette affaire-là. C'est devenu comme un standard dans le domaine des arts audio, des arts sonores, de faire des parcours et puis de sensibiliser la population, les gens, les auditeurs à la sonorité ambiance, à l'écologie sonore, et puis ça va donner lieu à une mouvance importante.
Ariane Plante, qu'on connaît bien tous les deux, a procédé à ce type d'exercice.
De cette manière-là, exactement, il y a quelques années.
Il y a quelques années, oui.
Ce dont je voulais vous faire entendre ce soir, faire entendre aux auditeurs, c'est un court extrait d'une installation de Nuance qui s'appelle Times Square. Il a installé une machine sonore dans une bouche d'aération sur Times Square à la fin des années 70. La pièce a été là pendant une vingtaine d'années et puis ensuite est devenue des Et au début des années 2000, il y a un groupe de mécènes qui ont soutenu Newhouse pour réintroduire l'œuvre, réinstaller l'œuvre sur Times Square. Et on peut trouver cette œuvre-là, en tout cas porter attention à l'écoute. Elle est située entre la 45e et 46e rue sur Times Square. Donc, on fait Max Newhouse Times Square sur Google, et puis on va trouver l'emplacement exact pour ceux qui veulent aller faire un tour prochainement à New York. Alors, je fais entendre un peu ce court extrait. Bon, évidemment que c'est assez bizarre comme sonorité. C'est une sonorité de drone. C'est une sonorité qui était un peu à la mode à l'époque. Et il faut beaucoup d'attention pour capter cet environnement sonore quand on marche sur Times Square, quand on sait où.
Faut le savoir.
Mais il reste que c'est un travail vraiment qui illustre assez bien toute la démarche sonore et intellectuelle de Max Newhouse.
Ben écoute, moi je vais enchaîner avec une œuvre qu'on a eu l'occasion de voir et d'entendre au dernier Mois Multi de Béchard Hudon. Et d'ailleurs, la sonorité me fait penser, la sonorité que tu viens de nous présenter de Max Newhouse, elle s'approche un peu de ce qu'on va entendre de Béchard Hudon. Pour mémoire, il faut se rappeler que Béchard Hudon travaille donc le son, et ils ont décidé de présenter au Mois Multi une série d'à peu près 8 ou 9 réceptacles à caractère sonore, des réceptacles en verre qui étaient suspendus dans la petite salle, dans la salle du studio d'essai, et qui étaient suspendus à des fils et qui venaient recouvrir une structure qui était à la base, qui était au sol, et qui venait recouvrir et qui créait un son. Il y avait un son qui était créé à la base et qui venait être étouffé par ce réceptacle-là en verre. Donc, il y avait un jeu d'ouverture et de fermeture, de son et d'absence de son qui était créé par cette œuvre-là et qui s'appelait « Les temps individuels » et qui était un rappel à ce que chacun dans une foule ou dans un ensemble quelconque a son propre temps, son propre rythme, parce que chacun de ces réceptacles-là fonctionnait à son propre rythme. Alors, c'était donc Béchard Hudon, cette œuvre « Les temps individuels » présentée à la dernière édition du mois multi à Québec. Alors, Gaëtan, tu t'enchaînes avec Tingley.
Oui, alors, j'avais mon objectif ce soir, c'était de parler d'un Américain, d'un Français, puis d'un
Moi, je vais parler de trois Québécois.
d'un Canadien. Alors, un Français, un grand artiste français de la sculpture mécanique, de la sculpture cinétique et puis de la sculpture sonore, je vais dire ça comme ça, Jean Tingley. Je parle d'un Français, mais au fond, c'est un Suisse. C'est un Suisse qui a été très actif en France, né en 1925, un sculpteur, un peintre. Il est célèbre pour ses œuvres qu'on appelait métamatiques ou encore métamécaniques, un art de récupération, un artiste qui a utilisé des machines, qui a déconstruit des machines pour construire d'autres machines ou récupéré des pièces de machines pour construire des machines sculptures. Qui font des sonorités particulières. Mm-hmm. C'est quelqu'un qui a voulu critiquer l'académisme, l'esthétique du beau, mais plutôt pour présenter des arts qui s'inspiraient grandement, disent les critiques, de l'art brut. Mm-hmm. Et bon, on voit des œuvres de Tingley partout en France. Il y en a autour de Beaubourg quand on prête un peu l'attention. Et ce soir, on va entendre un extrait d'une sculpture qui appartient à la galerie Tate. Et le titre, Je ne l'ai pas, c'est dans un enchaînement de sonorités qu'on retrouve sur Ubu Web. Alors, on y va pour l'écoute.
Gatan, on va enchaîner avec une autre de tes courtes pièces, puis on finira avec, avec la mienne de Jean-Pierre Gauthier.
Oui, alors je voulais vous parler par ailleurs de David Rokeby. Mm-hmm. Alors, je cherche mes notes, mais je ne les trouve pas. Donc, un jeune artiste, tout de même, né dans les années 60, un artiste canadien qui va participer à la Biennale de Venise en 86, donc à l'époque, il y a 26 ans. Mm. Et il invente une interface qui va s'appeler Very Nervous System, qui va donner lieu à une œuvre qu'il va appeler comme ça, Very Nervous System, et qui est une œuvre interactive. Alors, on parlait d'installation, mais
Oui.
C'est la nouvelle forme, je dirais, parce que on est dans un contexte d'installation de machines, donc une caméra qui capte les mouvements et qui décode le mouvement pour produire des sonorités. Et ça va être quelque chose de révolutionnaire au milieu des années 80 que cette pièce de Rokeby. Il va être de réputation internationale. Il va poursuivre ce travail-là encore jusqu'à maintenant avec évidemment les technologies de l'époque. Donc, ceux qui ont la chance pourront aller jeter un coup d'œil sur YouTube en faisant David Rokeby, R-O-K-E-B-Y. On le voit en action. C'est assez sympathique comme affaire. Et puis, on écoute immédiatement cette belle prestation.
C'était un. Il y avait probablement des origines asiatiques dans ton Rokeby.
Écoute.
Où l'univers asiatique l'a largement inspiré. Hein.
En tout cas, c'est un dispositif d'instruments rudimentaires, mm-hmm. élémentaires, des sonorités mm-hmm. élémentaires, mais qui font le travail. Et je faisais référence au travail vidéographique. C'est vraiment intéressant de voir parce que, bon, il chorégraphie cette musique-là. Et tout de même, ça fait une trentaine d'années que ce travail-là existe. Alors, c'est impressionnant.
Alors, on va se laisser, Gaétan et chers auditeurs, il est presque 57. On va se laisser sur une pièce de Jean-Pierre Gauthier, et qui, justement, qui était présentée à la Galerie des Arts Visuels il y a quelques années, et qui s'intitulait Assainissement.
Asservissement.
Asservissement. Et on se laisse là-dessus et on vous dit ben à la semaine prochaine. Si vous voulez écouter les reprises de nos émissions, vous pouvez aller sur le site internet lacrocheoreille.wordpress.com et demain aux premières heures sur le site de CKRL, vous pourrez écouter en reprise cette émission. C'était Jean-Pierre Guy, Gaétan Gosselin, La Croche Oreille. À la prochaine. Bye bye.
Cette émission vous a été présentée par Avatar, Centre d'artistes de Québec spécialisé en art audio et électronique. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes.